Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est la Libre Antenne. 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Nous allons parler du recensement électoral. J'ai sous les yeux également des réactions en provenance de Guinée, du Tchad. On parlera football, forcément, Karim Benzema, Lionel Messi. Et on va commencer cette Libre Antenne avec des analyses du Sénégal. Les tensions sur place après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Fatick et vous disiez au Standard que vous attendiez une prise de parole du président Macky Sall. Un discours à la nation s'impose.
Oui, effectivement, c'est un discours quand même qui s'impose et son silence quand même est plus qu'inquiétant et plus qu'accablant. Au regard des tensions récentes effectivement qui ont secoué toute la nation sénégalaise, il ressort effectivement de sa responsabilité en tant que chef de la nation, comme on a tendance à l'appeler, à ce qu'il prenne la parole effectivement pour essayer en quelque sorte quand même de montrer des pistes de solutions allant dans le sens quand même de ramener la stabilité, mais également de faire baisser la tension qui sévit présentement dans le pays.
Alors il a prévu de s'exprimer, hein, il a prévu de s'adresser aux Sénégalais. Mais après le dialogue national, et les conclusions du dialogue national sont attendues avant le 25 juin. C'est-à-dire qu'il va falloir encore patienter avant que le chef de l'État ne s'adresse à la nation.
Bon, c'est vrai, c'est son choix, c'est son calendrier. On ne peut pas lui imposer également un calendrier différent de celui-ci. Et moi, je pense qu'au regard de la gravité de la situation quand même, la logique et la respectabilité également face au peuple sénégalais voudraient effectivement qu'il prenne la parole pour au moins effectivement, parce que même jusqu'au moment où nous parlons, la tension elle est sous-jacente, elle n'est pas encore écartée et rien ne nous garantit que d'ici à cette date-là, parce que je pense qu'on doit lui remettre les conclusions à la date du 25 de ce mois-ci, rien ne nous garantit que d'ici à cette date-là, cette tension sous-jacente également ne pourrait pas encore réjaillir.
D'autant qu'Ousmane Sonko, l'opposant, peut être arrêté, interpellé à tout moment, et ce, le gouvernement l'a rappelé, et justement, cette éventuelle arrestation crée des tensions et renforce ce climat d'inquiétude. Vous restez en ligne, Ibrahim, vous êtes à Fatick, je vous présente Emmanuel, lui il est à Ziguinchor. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Juan.
Et vous aussi, vous attendez cette prise de parole du président Macky Sall?
Oui, tout à fait, comme tout le monde, comme tout Sénégalais. Mais sauf que contrairement aux gens qui pensent que normalement le président doit s'exprimer aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la grande question sur laquelle il est attendu, c'est la troisième candidature. Oui. Et c'est un point qui est déjà inscrit dans le dialogue national. Donc vouloir le faire sortir aujourd'hui pour qu'il s'exprime là-dessus, alors que ce point fait partie des termes de référence, c'est un peu handicaper cette démarche qu'il a déjà entamée.
Et en même temps, Emmanuel, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, la perspective d'une troisième candidature, c'est ce qui cristallise les tensions avec l'opposition. Est-ce qu'il ne doit pas mettre fin à ce suspense le plus vite possible?
Mais le plus vite possible, on est au courant du mois de juin, on est dans des discussions dans le cadre d'un dialogue national où tout le monde a été convié, y compris ses partis ou bien toutes ces personnes qui prennent aujourd'hui une prise de position par rapport à cette troisième candidature. Ils n'y ont pas participé, ils ont le droit, mais par contre, vouloir imposer au président de sortir tout de suite et en parler, c'est peut-être traiter à la limite de pas du tout important ce qui a été entamé pour ce dialogue.
Oui. Donc, excusez-moi Emmanuel, ne raccrochez pas. Ibrahim, à Fatick, il est important ce dialogue national pour vous?
Moi, je ne lui accorde pas de crédit. Et en revenant à propos des propos de mon concitoyen là, Emmanuel, moi, je pense qu'inscrire même cette question-là du troisième mandat à l'ordre du jour du dialogue, c'est insulter l'intelligence des Sénégalais, mais c'est profaner également les martyrs même qui ont effectivement à payer de leur vie lorsqu'on combattait cette question-là du troisième mandat entre 2011 et 2012 au Sénégal. Et parmi ces gens-là qui combattaient ce troisième mandat-là, il figurait effectivement l'actuel président sénégalais Macky Sall en personne. Donc revenir aujourd'hui en 2023 pour inscrire cette question-là autour effectivement du chronogramme du dialogue qu'il considère national, moi je pense que c'est à la fois insulter l'intelligence des Sénégalais, oui, mais également c'est profaner même la mémoire de ces martyrs.
J'entends, Ibrahim, j'entends votre analyse, mais ne pas en parler, éviter d'en parler, ça aurait été dénoncé par une partie de l'opposition, par une partie du peuple sénégalais. Ne pas vouloir parler de la question du troisième mandat, vouloir en parler, c'est que le sujet n'est pas tabou.
Non, le problème ne devrait pas se poser parce qu'elle est déjà réglée par la Constitution sénégalaise. Moi, je pense que vouloir maintenant l'inscrire à l'ordre du jour, c'est comme si on essayait de jouer effectivement avec, comment dirais-je, l'intelligence des Sénégalais, au point de vouloir effectivement leur faire revenir en 12 ans en arrière, alors que cette question-là était censée être résolue depuis qu'on a combattu le régime de Watt qui voulait effectivement faire un forcing à propos de ce troisième mandat.
On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci Ibrahim. Bonne journée à Fatigue. Je remercie Emmanuel qui nous appelait de Ziguinchor au Sénégal. Il est 8h46. J'ai reçu cette semaine le témoignage de Choukou. Il nous a contacté via le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Il est étudiant congolais, bloqué à Khartoum, au Soudan. Bonjour Choukou.
Bonjour messieurs, bonjour RFI, bonjour tout le monde, tous les gens qui nous suivent.
Et merci de votre confiance, merci de nous appeler. Vous êtes donc bloqué à l'université depuis 8 semaines. Khartoum, faut-il le rappeler, le théâtre de combat depuis 2 mois entre l'armée régulière du général Al-Bourhan et les forces de soutien rapide du général Emeti. Cela fait donc 8 semaines que vous êtes bloqué sur le campus de l'université. Vous souhaitiez témoigner, on vous écoute, Choukou.
Non, ça fait déjà 8 semaines qu'on vient vous dire. Nous sommes bloqués ici dans l'Université internationale d'Afrique. Et dès le début de cette guerre, on avait déjà essayé de rejoindre nos autorités, nos ambassades et notre gouvernement congolais. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu une bonne suite jusqu'à maintenant. Et nous continuons toujours à essayer de contacter le gouvernement.
Contacter au moins les autorités congolaises pour que vous puissiez retourner dans votre pays, la République démocratique du Congo. Choukou, combien d'étudiants êtes-vous en ce moment, d'étudiants congolais sur le campus?
On est 11
étudiants.
Juste 11 étudiants qui ne vont même pas rentrer.
Ah, et on est en direct. Pour tout dire, pour tout raconter aux auditeurs, ça fait une bonne trentaine de minutes que l'équipe technique essaie d'établir une bonne liaison avec Choukou, qui est bloqué donc à l'Université internationale d'Afrique à Khartoum. Le réseau va et vient, donc on est vraiment tributaire de la qualité de la ligne. On fait une nouvelle tentative avec Choukou, bien évidemment. Choukou, donc vous êtes 11 étudiants. Vous disiez au standard, vivre sans électricité, il n'y a quasiment plus d'eau sur le campus. Ah, décidément, malheureusement. Ah bah voilà, on est en direct, on a entendu la ligne coupée. On va essayer de rappeler Choukou, on a envie de l'entendre évidemment. Il fait l'effort de nous appeler, de nous contacter et il faudrait qu'on l'entende, c'est le principe de cette émission. On va parler du Gabon. Le pays, vous le savez, se prépare aux élections. Il va y avoir une présidentielle, des législatives, des municipales. Pour l'instant, aucune date n'a été annoncée. En tout cas, les opérations d'enrôlement, d'enregistrement des électeurs sont en cours. Bonjour Patrick.
Bonjour Juan Gomez.
Vous
Bonjour.
Êtes à Libreville?
Oui, je suis à Libreville.
Alors, ces opérations d'enrôlement des électeurs, visiblement, elles ont rencontré ces derniers jours énormément de succès, puisque les autorités ont décidé de prolonger jusqu'à dimanche ces opérations, alors qu'elles auraient dû se terminer hier.
Oh, monsieur Juan Gomez, ça c'est une impression. C'est ce que les... l'on veut faire voir au monde. En fait, le peuple gabonais est déjà fatigué par rapport à la cherté de la vie, les trains de vie. Et puis, quand il y a les élections, Il semble que les autorités se lèvent, se mettent debout pour penser qu'il y a un peuple. C'est pour cela l'engouement pour se faire aller dans les centres pour se faire enrôler se faisait timidement. Et la population que vous avez vue là, c'est la majorité sont des jeunes. Et alors, leur donne quelque chose pour aller se faire enrôler. Voilà, c'est pourquoi il y a cet engouement.
Il y a un enrôlement. Mais excusez-moi, Patrick, j'arrive pas à vous comprendre. Donc vous dites que tous les gens qui se font enrôler sont des gens qui ont été payés.
Oui, la majorité.
Vous n'êtes pas un peu dans la caricature tout de même, Patrick ?
Non, ce sont les réalités. Certains députés, certains des anciens députés qui savent qu'ils voudraient encore se représenter, essaient de mobiliser tout un quartier, toute une population moyenne, quelque chose. Ce sont des choses qu'on voit.
Oui.
Nous avons des enfants qui ont reçu 5 000, 10 000, 20 000. On vous demande d'aller tous. Il y a un déplacement de la population pour aller se faire enrôler.
Et vous-même, Patrick ?
Oui, je me suis fait enrôler librement, mais...
Vous vous êtes fait enrôler. Donc, pourquoi êtes-vous dans la caricature en disant que tous ceux qui se font enrôler, c'est parce qu'ils ont reçu un peu d'argent ? Vous-même, vous dites ne pas avoir reçu d'argent, et vous l'avez fait, pourtant.
Non, si... Vous savez, on risque d'avoir une élection avec un taux de participation de 10%. Voilà pourquoi on a essayé de repousser... pour que les gens partent en masse. Mais ce sont les gens qui ne partent pas de leur gré. Il y a des choses qui se passent.
Bon.
Si vous êtes sur le terrain, vous allez comprendre ce que je veux dire.
Écoutez, vous savez quoi ? Il y a Joseph Aimé qui est à Libreville également. On va voir s'il partage votre analyse et s'il est d'accord avec vous. Bonjour Joseph Aimé.
Oui, bonjour Juan et bonjour à toute la communauté BRFI.
Merci.
Je pense effectivement que au niveau du Gabon, la population est lasse de pouvoir continuer à voter et à la fin, les résultats des urnes ne sont pas ceux qui sont proclamés.
Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Que dans un premier temps, finalement, il y avait très très peu de monde à aller se faire enrôler ?
Alors déjà, il faut commencer par le plus simple, hein, c'est que quand vous commencez à vous faire enrôler, il y a une queue, une très longue queue pour pouvoir soit radier votre nom et vous faire enregistrer. Ce n'est pas souvent évident, donc les temps d'attente peuvent durer jusqu'à une à deux heures. C'est énorme déjà pour juste se faire enrôler. Et surtout la peur ou la crainte qu'on a, ou plutôt l'évidence qu'on a, c'est qu'on sait clairement que celui qui organise les élections va pouvoir les remporter, même si ce n'est pas ça les résultats des urnes à la fin.
Bon, écoutez, en tout cas, les Gabonais ont jusqu'à dimanche hein, pour participer à ces opérations d'enregistrement et figurer ensuite sur les lignes électorales. Soukou, de nouveau avec nous. On va essayer d'avoir une discussion un peu sur la longueur avec cet auditeur de Khartoum. Soukou.
Oui, monsieur.
Voilà, on vous entend et ça fonctionne de nouveau. Donc, vous nous disiez être 11 élèves, 11 étudiants congolais bloqués à l'Université internationale d'Afrique. Est-ce que vous avez de l'électricité ? Est-ce que vous avez accès à l'eau ? Comment vivez-vous au quotidien ?
On avait accès de tout ça, Comme vous savez, les Soudans ici.
Non, malheureusement, ce n'est pas faute d'avoir essayé, Choukou. On va essayer de prendre par écrit votre témoignage et de le publier sur la page Facebook de l'émission. Bon courage à vous. Au standard, 33 9 693 693 70. Vinabé, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez, bonjour à toutes et à tous.
Merci de nous appeler de Bamako. Vous écoutez RFI sur place grâce à un VPN et vous profitez de la libre antenne pour nous parler du crépissage de la grande mosquée de Djéné. Djéné, c'est au centre du Mali et pour ceux qui ne connaissent pas cette mosquée, c'est l'un des plus grands monuments en terre du monde. Vous-même, vous avez fait le déplacement pour participer à ces travaux.
Oui, effectivement, Juan, j'ai fait le déplacement le dimanche qui était le jour même du crépissage de cette mosquée qui est construite en 1907. Tous les matins, les populations de Djéné et environ et quelques-unes de ces personnes qui ont fait le déplacement à Bamako et d'autres localités du pays
oui.
et se sont retrouvées pour le crépissage de la mosquée qui consiste à mélanger de l'eau avec la terre crue pour glisser sur les murs de cette mosquée, une manière de permettre à cette mosquée de résister encore plus qui date aujourd'hui de plus de 100 ans.
Oui, effectivement, et c'est vrai que ce revêtement, il est indispensable hein, pour préserver cette mosquée classée au patrimoine mondial. Ça veut dire que vous-même, Vinabé, avec les habitants de Djéné, vous avez mélangé l'eau, la terre pour parvenir à cette boue qui est ensuite posée sur les murs de la mosquée ?
Effectivement, on a mélangé de l'eau avec la terre. J'ai participé avec les populations de Djéné qui, ça fait à peu près 3 ans qu'ils ne faisaient pas cette activité, qui était vraiment due à l'insécurité, due à des moyens financiers et techniques, parce que on ne peut pas organiser un tel événement sans la sécurité, c'est-à-dire amener les forces de l'ordre à cadrer un peu la zone pour des risques d'attentats ou autres trucs des terroristes, car la zone est toujours sous menace terroriste.
Mmh. En tout cas, cette année, les travaux ont pu être réalisés et la grande mosquée de Djéné est protégée en vue des intempéries, puisque la saison des pluies va très bientôt commencer dans le centre du Mali. Merci infiniment, Vinabé, de nous avoir appelé. Continuez à écouter RFI. Merci de votre confiance. On va parler football. Karim Benzema est arrivé hier en Arabie Saoudite, à Jeddah. Lionel Messi, lui, va poser ses valises aux États-Unis. Bonjour William.
Bonjour Juan, bonjour des RFI et bonjour l'Afrique en même temps.
Merci, vous êtes en région parisienne, on vous écoute.
Oui, en fait, Karim Benzema, moi je pense que son choix, déjà il faut le respecter, il faut l'accepter, de partir du Real après 14 ans, on va dire, d'une carrière extraordinaire. Donc je pense qu'il faut que moi, déjà en tant que fan du Grand Real et de Karim Benzema, que je puisse lui dire un grand merci de tout ce qu'il a fait dans ce grand club du monde et tous les trophées aujourd'hui que le Real a pu gagner. Quand on regarde un peu le couloir du Real de Madrid, les Ligues des Champions que le Real a remporté, Benzema a été de la partie. Et donc le choix, qu'on peut parler le choix financier en fait du côté argent et tout en Arabie Saoudite, et moi je ne vois pas ça. Moi, tout ce que je sais.
Vous voyez quoi Parce que, vous pensez qu'il est allé en Arabie Saoudite pour autre chose que de l'argent?
Et tous, ils ont besoin d'argent. Là où il est parti Messi, c'est aussi pour l'argent. Mais Benzema, en fait, je veux dire que s'il a signé pour 3 ans, c'est parce qu'il veut, il a dit de toute façon lui-même, il veut continuer à se faire plaisir avec le ballon et donner du plaisir à nous qui sommes passionnés du foot et fans en même temps. Oui. Donc moi je pense que l'argent,
William, quand on parle de 600 millions d'euros sur 3 saisons, ça ne vous choque pas?
Bon, écoutez, ça choque, c'est vrai, mais c'est eux qui ont l'argent, les Saoudiens. Donc moi en fait je vois pas quoi dire là-dessus. Mais de toute façon eux ils veulent donner une image au monde dans le foot, en passant par le football, en attirant les grands joueurs comme les Benzema, les Cristiano Ronaldo et comme ça. Et voilà, donc en fait, ils ont l'argent. Pour l'argent, pour eux, c'est pas un problème. C'est peut-être nous qui n'en avons pas, qui trouvons que bon, c'est un scandale.
William, vous restez en ligne, vous êtes en région parisienne. Il y a Senkoun qui est à Conakry. Lui aussi souhaite réagir sur Karim Benzema. Bonjour Senkoun.
Oui, bonjour Juan. Bonjour à tous les éditeurs de RFI.
On vous écoute.
Oui, je le disais tantôt que c'est... Je comprends bien le choix de Karim Benzema pour aller en Arabie Saoudite. Effectivement, je vais un peu sur la même lignée que lui. Pourquoi ? Parce que, je le dis, à un certain moment, il faut savoir faire des choix. Vous savez, il tend vers la fin de sa carrière. À 35 ans déjà, il faut vraiment penser à la reconversion. Après football, donc, pour ceux qui diront que c'est pour une question d'argent, ben, on peut comprendre, hein. C'est pas grave. Il y en a qui ont des milliards aujourd'hui. Donc, si lui, il va 600 millions d'euros pour 3 ans, je vois rien de mal quand même avec ça.
Ouais. Et vous espérez que d'autres grandes stars rejoignent Benzema, Cristiano Ronaldo ?
Bon, Ronaldo, déjà, on sait déjà que Ronaldo a déjà le club et Karim Benzema est parti à l'Etihad, je crois. Ouais. Donc,
est-ce que vous attendez
maintenant?
Non, bah, ils vont pas être ensemble, ils sont pas dans le même club, mais peut-être que le fait que d'autres grandes stars rejoignent l'Arabie Saoudite peut rendre le championnat saoudien du coup un peu plus pétillant. Merci à tous, c'était passionnant, c'était la Libre Antenne du vendredi sur RFI. Prenez soin de vous et à lundi.
Atlantique Mobile, la meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique.